Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Risen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité, dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Dans ce podcast, environnement toxique en entreprise. Alors qu'elles ont l'obligation de protéger leurs collaborateurs et leurs espaces de travail contre ce qu'on appelle aujourd'hui communément les risques psychosociaux, les entreprises déploient une énergie considérable à imaginer des plans d'action coûteux et pas toujours efficaces. Prévenir n'est pas se prémunir, une confusion que font souvent les dirigeants d'entreprise. La solution réside souvent dans le simple bon sens, l'observation et l'écoute, ainsi que la mise en place d'un encadrement de proximité basé sur la collaboration et la coopération. La violence et la souffrance au travail ne sont pas une fatalité. Et c'est là toute l'action de Nathalie, lorsqu'elle reçoit dans son cabinet des personnes ayant actionné tous les leviers mis à leur disposition. Nathalie dénoue les fils, les pièges de la violence psychologique, du harcèlement moral en entreprise. Face aux violences sournoises survenant dans le cadre du travail, les acteurs, entendez là l'employeur, le collaborateur ou même le manager, se trouvent souvent démunis, isolés et dans une solitude profonde. Les travailleurs impactés sont enfermés dans une position de victime ayant subi une injustice hors du commun, commise par un agresseur avec lequel toute forme de compréhension paraît impossible. Nous parlons là de terrorisme psychique, qui peut pousser les victimes à des absences répétées, des arrêts de travail, un burn-out, une démission sous contrainte, ou pire encore, au suicide. En Suisse, même si le phénomène est encore tabou, les chiffres sont en hausse. On se souvient encore des débats autour du suicide de l'ex-chef des finances de l'assurance Zurich, Pierre Vautier, en 2013, ou du CEO de Swisscom, Carsten Sclaughter, également en 2013. La France, quant à elle, fait face à la première affaire de harcèlement moral institutionnalisé qu'aura à trancher la justice à la fin 2019. France Télécom, devenue depuis Orange, est jugée pour harcèlement moral ou complicité de harcèlement moral. Voici quelques phrases emblématiques des victimes. En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. Management de la terreur. Il fallait briser les gens pour les faire partir. Les victimes se sentent coupables, et dans une peur, une angoisse de ne pas être crues, d'être licenciées, ou encore de devoir donner leur démission sous contrainte. Empreintes d'un profond sentiment d'injustice, et face à l'incompréhension de ce qu'elles vivent, c'est par l'écoute et la validation de leur récit que Nathalie les accueille sans jugement ni a priori. Savoir prendre le temps d'écouter pour poser la situation, comprendre les enjeux, le contexte et comprendre la personne dans sa tridimensionnalité, entendez par là son passé, son présent, son futur et son 360 degrés de vie, permet de pouvoir créer une alliance de confiance déterminante pour la suite de la démarche. Faire fi de la tridimensionnalité de l'individu est une erreur, car engager une personne, c'est la prendre dans sa totalité. Un individu est imprégné de son travail jusque dans ses rêves. Le travail est une préoccupation centrale dans la vie de l'individu au XXIe siècle. C'est un lieu où va se construire et se déconstruire l'armature même de la santé mentale qu'est l'identité, la reconnaissance socio-professionnelle et l'appartenance à la société à travers son métier. Être utile est une question capitale dans notre société pour la plupart d'entre nous. Alors, lorsque l'organisation même du travail met en péril la santé mentale au travail, ou que l'ambiance générale se dégrade, cela va gangréner toute la vie de l'individu, tant au niveau professionnel que privé, pour avoir même des répercussions sur son entourage, sa famille et ses enfants. Souvent, ces personnes sont coupées du monde réel, puisqu'elles n'osent pour la plupart même pas parler de leurs problèmes à leurs proches, bien loin de se douter de ce que leur mari, leur frère, leur fils peut endurer plus de 40 heures par semaine. La violence physique se voit et est définie par des normes professionnelles déterminées par les conditions de travail, alors que la violence psychologique et éthique est invisible. Le harcèlement au travail a pour objet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. L'auteur n'est pas forcément un supérieur hiérarchique. Il peut être un collègue ou une personne extérieure à l'entreprise. Les agissements de l'auteur doivent être répétés. Menaces, insultes, humiliations, dénigrements, déclassements brutaux. S'ajoutent à cela les tortures du quotidien. Appels téléphoniques, courriers multiples, multiplication d'emails, vérification systématique, mise à l'écart, suppression du nom dans l'organigramme. Une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et des contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe ou d'entretenir un flou artistique. L'individu va se sentir abandonné, ferré dans une situation qui le dépasse et le laisse sans pouvoir d'agir. Le phénomène de l'emprise empêche la victime d'y voir clair et peut engendrer des réactions inconsidérées et non adaptées de sa part. Souvent obsédé par la mise en lumière de la preuve, le lien entre les actes et l'atteinte à la santé, la victime peut, à son tour, se mettre en faute, ce qui n'aura d'autre effet que d'asseoir le harceleur dans une position de toute puissance, avec un public désormais acquis à sa cause. Alors, comment agir en gardant la tête froide? Souvent isolée, la victime voit son salut dans une aide extérieure, mais pas n'importe laquelle. Car on ne parle pas là de simples problèmes d'hygiène au travail à régler, mais de prise en charge lourde, avec des conséquences multiples, perte d'estime de soi, de confiance, de sécurité et de protection. Sans parler des modifications physiques que cette situation a pu entraîner. La violence éthique et morale est invisible, mais laisse des traces à vie. Accueillir une personne victime de violences psychologiques nécessite la mise en place d'un interlocuteur formé aux mécanismes de l'emprise et de la triangulaire toxique. C'est souvent le regard vide que les victimes se présentent dans le cabinet de Nathalie. Et ce n'est que quand elle leur explique sa fonction et les schémas sur lesquels elle axe son approche que leur visage s'illumine, leur regard se modifie et la ventilation commence. C'est un petit peu comme si Nathalie arrive dans une maison où les volets sont clos, qu'elle sonne à la porte et qu'un type en pyjama lui répond en disant qu'il n'y a personne. C'est en trouvant les bons gestes que Nathalie arrive à s'installer dans son salon et qu'ensemble, ils vont finalement boire le thé en ouvrant les volets. Une belle occasion de rappeler qu'aider n'est pas sauver. Aider, c'est être là sans jugement, ni a priori, et accueillir, faciliter la compréhension par de la psychoéducation. Des choses que l'on n'a pas apprises à l'école, mais qu'on a l'impression de connaître par cœur lorsqu'on nous les détaille. Ne serait-ce qu'en expliquant cette triangulaire dramatique, victime, bourreau, sauveur, et déjà l'esquisse d'une respiration de soulagement apparaît. Puis le cycle de l'emprise, repérage, séduction, ferrage, destruction, négociation et enfin isolement, solitude et désolation. Plutôt que simplement les inviter à communiquer, Nathalie leur propose de libérer les mots M-A-U-X des mots M-O-T-S et de développer la réflexion autour de trois valeurs essentielles. La liberté, la responsabilité et la dignité. Cette triangulaire est hautement symbolique. La liberté pour reprendre le fil de sa vie, le gouvernail, son libre arbitre. La responsabilité, car même si l'entreprise porte une part de responsabilité, Je dois aussi me rendre compte que je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est aussi ça, reprendre le gouvernail. La dignité. Cette dignité perdue et bafouée dans le harcèlement de ce que je vis. Conjointement à ces réflexions presque philosophiques, le travail se fait sur l'autorité, qui est souvent confondue avec l'autoritarisme, qui nous permet d'ouvrir un volet sur l'utilité de l'autorité, le positionnement de notre corps dans le travail, le comment se faire respecter. L'identité, le travail, s'inscrivent comme pacificateurs social et individuel, servant tout aussi bien à construire l'identité qu'à la détruire lorsqu'il devient un facteur pathogène. La reconnaissance passe par le jugement d'utilité, car mon travail n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un loisir. Il en ressort souvent que ce n'est pas l'argent qui est le moteur, mais le sens du travail que j'accomplis. Mon appartenance à un corps de métier. Être condamné à être inutile, c'est terrible. Le plaisir. Tant le travail peut apporter une source de satisfaction sublimatoire lorsqu'il est librement organisé et délibérément choisi ou conquis. Il s'agit aussi d'une intervention qui peut se faire en amont, par de la prévention et de la mise en situation. Éduquer les collaborateurs à être corrects et respectueux entre eux, à se montrer prévenants, âge et expérience, privilégier l'entraide et la solidarité. Car travailler, ce n'est pas uniquement produire, c'est avant tout vivre ensemble, collaborer et coopérer. En gros, sortir du chacun pour soi et de la banalisation du mal. Il m'est arrivé de recevoir des personnes démolies par leur aveu de faiblesse à ne pas avoir réagi ou dénoncé des abus de pouvoir, de la discrimination. Des prises de conscience de l'entreprise aussi. Comme par exemple, être très clair et définir les normes de comportement sur les sanctions apportées en cas de harcèlement ou de violence psychologique. Poser un cadre positif, bienveillant et affirmé, rassure le personnel, pour autant que l'entreprise ne prenne pas cette nouvelle communication comme un alibi pour ne rien faire d'autre. Tout cela peut s'organiser autour d'un observatoire au sein de l'entreprise, avec des ambassadeurs nommés. RH, direction, collaborateurs. Devenir une entreprise citoyenne, dont les finalités économiques et sociales cohabitent, est possible, et engendre des retours positifs, en développant cette fois une triangulaire gagnante de satisfaction, loyauté, confiance, tant de la part des collaborateurs, de la direction, que des clients. Nathalie s'engage aux côtés des entreprises pour un management sain et durable, par des actions de prévention et de gestion de crise.